Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Ce soir, Nathalie, vous recevez Charles Villeneuve, Michaël Darmon et Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de BVA.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bienvenue. Les municipales, elles approchent à grands pas, 15 et 22 mars. Et on va zoomer avec votre sondage BVA pour Europe 1, évidemment Édouard Le Cerf, sur la ville de Perpignan ce soir. On est à 10 jours de ce premier scrutin, de ce premier tour. Et le Rassemblement national commence à avoir le sourire, en tout cas à Perpignan précisément. Donnez-nous, livrez-nous le résultat de votre sondage. C'est Louis Alliot qui arrive en tête aujourd'hui.
Oui, en tête de ses intentions de vote. Vous avez raison de le rappeler, ce sont des intentions de vote. On est à 10 jours, il peut encore se passer plein de choses en France et à Perpignan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les intentions de vote donnent Louis Alliot en tête avec 35% des intentions de vote. Il devance Jean-Marc Pujol, le maire sortant, qui n'obtient pour l'instant en intention de vote toujours que 19%.
Républicain.
Voilà, absolument, avec l'étiquette Les Républicains. Romain Gruau, qui est à la tête de la liste La République En Marche, Modem et UDI, obtiendrait 15%. Et 15%, c'est également les intentions de vote pour Agnès Langevin, qui emmène une liste large de gauche, on va dire, avec Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, Place Publique, le Parti Radical de Gauche et Génération Écologie. Il y a aussi, il faut noter, alors ceux-là, potentiellement, sont qualifiés pour un second tour, puisque vous savez qu'il faut avoir 10% pour se maintenir. En dessous de ce seuil de 10%, on retrouve la liste de Caroline Forgue, qui est soutenue par le Parti communiste, le NPA, France Insoumise et Génération.
Alors, allez-y.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est, comme vous le disiez, le Rassemblement National, même si l'étiquette n'est pas directement celle que se donne Louis Alliot, mais personne n'est dupe, 35%, c'est le score qu'il a obtenu au premier tour en 2014. Donc, ça n'est pas forcément mirobolant, c'est simplement en face de lui que c'est plus compliqué, qu'il y a un petit peu de la désagrégation. Et on se souvient qu'au premier tour, encore une fois, en 2014, nous avions Jean-Marc Pujol qui obtenait un peu plus de 30%, ce qui lui a permis de se qualifier au second tour, ce qui avait permis effectivement de devenir ou de rester une force d'attraction pour un Front républicain qui s'est constitué.
Ah, c'est ça, c'est toute la question.
Et c'est toute la question. Aujourd'hui, on a en face de Louis Alliot quelque chose qui est beaucoup plus désagrégé, qui va avoir du mal à se reconstituer.
Je vais bien sûr vous donner la parole, Charles Villeneuve, Michaël Darmon. Je voudrais juste entendre Romain Gruau, le candidat républicain En Marche à la mairie de Perpignan. Lui, il ne veut pas, ce que vous nous disiez, Édouard Le Cerf, il ne veut pas d'une alliance avec le maire sortant, Les Républicains, Jean-Marc Pujol.
Si j'étais persuadé que M. Pujol puisse battre le Front National au deuxième tour, je ne me serais pas présenté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude. Les gens ne se projettent pas pendant 6 ans avec M. Pujol. Le Front National, il prospère parce que les problèmes ne sont pas évoqués, ne sont pas traités et ne sont pas solutionnés. C'est là-dessus qu'on gagnera la partie. Les Perpignanais vont nous dire, que faites-vous sur la sécurité, sur le stationnement, sur le prix de l'eau? Tous ces éléments-là, ils doivent être traités. Et aujourd'hui, les Perpignanais ont fait confiance une fois à M. Pujol contre M. Alliot. Je crains que si on rejouait ce duel-là, les choses ne tourneraient pas favorablement.
Les priorités des Perpignanais, on va y venir dans un instant. Romain Gruau, le candidat à la République En Marche à la mairie de Perpignan, au micro d'Europe 1 de Benjamin Peter. Charles Villeneuve, Michaël Darmon, quelle lecture on fait de ce sondage dans cette ville de Perpignan? Et à savoir que si effectivement Louis Alliot passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 20 ans, une ville de plus de 100 000 habitants est administrée par le Rassemblement national.
Moi, il me paraît en très bonne position. J'ai écouté le directeur général adjoint de BVA. Sincèrement, je ne vois pas de Front républicain au second tour se constituer. On vient d'entendre d'ailleurs Romain Gruau. Lui aussi, c'est une ville dont l'extraordinaire majorité veut le changement de l'équipe municipale en place.
Plus largement que dans la moyenne des villes françaises.
Absolument.
C'est net.
Deux, quelle est la priorité aux yeux de tous les Perpignanais? C'est la
sécurité,
beaucoup plus que la propreté. C'est pas tout à fait le cas à Paris, c'est la sécurité aussi, mais la propreté arrive très près. Et puis, trois, il faut reconnaître une chose. Alors, il n'a pas l'étiquette Rassemblement National, mais vous l'avez dit, ça ne trompe personne. Mais en même temps, je trouve qu'il a un profil, si vous voulez, plus rassembleur que la plupart des autres leaders du Rassemblement National. Il a plutôt le profil d'un homme de droite, à la droite de la droite, plutôt qu'à l'extrême droite. Il est un peu comme David Rachline à Fréjus, qui lui, d'après les sondages d'ailleurs, passerait au premier tour. Bon. Je trouve qu'il est en très bonne position.
Et que
compte tenu de l'électorat très composite de l'éventuelle opposition, il a une vraie chance d'être le maire.
Avec risque de triangulaire, voire de quadrangulaire, ça y est, c'est quasiment plié si on part dans ce sens-là, Michaël Darmon.
Déjà, ce serait un peu une exception, ce serait intéressant, parce qu'en fait, le paradoxe du RN dans cette élection, c'est qu'à la fois, il présente moins de candidats. En général, les municipales ne sont pas des bonnes élections. Mais ce à quoi on peut assister d'abord, c'est un ancrage du lepenisme municipal. Parce qu'au-delà de Perpignan, on va y revenir, il est fort probable que les maires actuels dans les villes RN soient reconduits dans leurs fonctions. Donc, ça veut dire qu'on assiste à un ancrage, une forme d'installation d'un lepenisme municipal qui déjà amène à une deuxième étape. Et puis, concernant Perpignan vraiment, eh bien, si Louis Alliot réussit à l'emporter, c'est depuis Toulon, qui avait été dirigé par un proche de Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Chevalier à l'époque, eh bien, c'est la nouvelle grande ville que le RN et que le parti de Marine Le Pen pourrait diriger. Et de ce point de vue-là, dans des conditions électorales très différentes qui racontent deux époques différentes.
Pour la première fois depuis 20 ans, une ville en tout cas de plus de 100 000 habitants. On se redit un mot, Édouard Le Cerf, de votre sondage dans un petit cinq ans, sondage BVA pour Europe 1 et Orange. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous ce soir, Nathalie, Charles Villeneuve, Michaël Darmon et Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de BVA. Et toutes vos réactions en direct au 39-21.
Avec ce sondage que vous nous avez livré pour Europe 1 et Orange, Édouard Le Cerf, ce sondage à Perpignan, peut-être la grosse prise du Rassemblement national. On est à 10 jours du premier tour des municipales. Louis Alliot, on le répète, cadre influent de la dédiabolisation du Front National, qui espère finalement copier le succès son ami Robert Ménard, dans la région. C'est son troisième essai, il y croit dur comme fer. De toute évidence, tous les éléments sont réunis. On parle bien sûr que d'intention de vote. Mmh. Évidemment, Charles Villeneuve le disait, la sécurité avec un grand S là dans ce scrutin aussi.
Oui, c'est le principal sujet de préoccupation pour les Perpignanais. 50%, c'est-à-dire 14 points au-dessus de la moyenne nationale en termes de niveau d'inquiétude, en tout cas de sujet prioritaire au niveau local. La propreté, certes, elle est un peu derrière, mais 10 points seulement derrière, elle est à 40%. C'est aussi un point très important à Perpignan, hein, parce que là, on est 20 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc, ce sont deux éléments. Alors, c'est vrai qu'on va dire que pour quelqu'un qui est proche, en tout cas au Rassemblement national, ce sont des thèmes sur lesquels, je ne vais pas dire qu'il joue sur du velours, mais ce sont des thèmes sur lesquels il va avoir, vraisemblablement, auprès d'une partie de la population, une forme de crédibilité potentielle. Je voulais revenir une seconde aussi, si vous le permettez, sur ce que disait Michaël Darmon. C'est très important parce qu'on est vraiment dans l'analyse, dans la lecture qu'on va faire le soir du premier tour et du second tour de ces élections. On sera dans les symboles. On sera dans les symboles. Donc, la capacité du Rassemblement national à prendre une ville de cette taille-là, ce sera un symbole. Je veux quand même ramener un peu les choses. Le nombre de candidats du Rassemblement national, au niveau français, est relativement faible. Ce qui fait qu'il faut se souvenir quelque chose. On parle d'implantation, et c'est vrai qu'il y aura de l'implantation. Souvenons-nous, en 2014, le nombre de voix pour le Front National au niveau de l'ensemble de la France, parce qu'ils ne sont pas présents partout, c'est 1 million d'électeurs. 1 million d'électeurs, vous pouvez le comparer aux 10,6 millions du second tour de la présidentielle. Il y a certes une implantation, mais c'est une implantation sur des symboles, sur des endroits choisis, sur une manière effectivement de s'implanter en utilisant ces symboles.
Voilà. Oui, il y a aussi une chose par rapport aux Pyrénées orientales. Ça fait longtemps que le Rassemblement national, hier le Front national, investit et travaille justement. Et notamment avec cette ville de 121 000 habitants à dominante catalane, il ne faut pas l'oublier, mais des Catalans d'un genre tout à fait différent par rapport à ceux qu'on connaît à Barcelone et dans les régions environnantes. Et justement, ce qui est très étonnant, c'est cette percée quand même du Rassemblement national là, à Perpignan. Moi, c'est quelque chose que c'est une ville que je connais assez bien. Quand j'étais étudiant, on jouait souvent au rugby là-bas. Eh bien, c'est une ville que je ne voyais pas passer au front, en tout cas il y a 10 ans.
Ça n'est pas fait encore.
Un mot encore, Michaël Darmon, je voudrais élargir ensuite au municipal avec le premier débat hier.
C'est l'étonnement aussi sur Perpignan. On raconte aussi une forme de porosité de l'électorat. C'est-à-dire que les capacités d'électeurs de la droite pouvant aller sur un candidat supposé proche RN, même s'il n'est pas étiqueté, mais enfin, tout le monde sait qu'évidemment il est RN, commence un petit peu aussi à se concrétiser malgré les déclarations au sommet des appareils.
Alors la rencontre, elle était attendue à 10 jours du premier tour de ces municipales. Les 7 prétendants à la mairie de Paris ont confronté leurs projets hier soir. Vous avez regardé, j'imagine, et en tout cas lu, écouté tout ce qui s'en disait depuis. Qui a creusé l'écart, Charles Villeneuve?
Écoutez, moi, d'abord, je ne sais pas qui a creusé l'écart. Sincèrement, je n'ai pas de... Je trouve, premièrement, moi, je suis assez impressionné depuis le début de la campagne par la maire sortante. Elle est d'airain. Elle est imperturbable. Rien ne l'entame. Rien quasiment ne l'entame. Peut-être un peu l'incident, on en parlait ensemble sur l'affaire des lignes de métro.
Elle est arrivée dans les studios hier soir.
Mais je ne pense pas que ce soit décisif de s'être trompée par rapport aux lignes qu'elle a citées. Bon. Et puis, si vous voulez, c'est assez intéressant parce que, aussi, au cours du débat, elle a réservé quand même ses coups, ou plutôt ses piques ou ses flèches de part, appelons ça comme vous voulez, plutôt à Agnès Buzyn qu'à Rachida Dati, sur les dettes notamment. Mais là, elle a une sortie vraie, qui est l'État qui de plus en plus baisse ses subventions par rapport aux accords d'après-guerre, etc., notamment sur le régalien. Et sur l'hôpital public,
sur l'hôpital,
elle a
bien
eu,
sûr,
évidemment, Agnès Buzyn est venue la chercher sur Europe 1, d'ailleurs, le matin, là-dessus. Elle a été facile là-dessus. Et en ce qui concerne la sécurité, elle rappelle que la police s'occupe sur le plan national plutôt des dégâts commis sur le plan social par le président de la République. Et donc, elle est occupée à une autre tâche. J'ai trouvé Rachida Dati très vive, assez culottée notamment.
Combative,
très précise, notamment de manière même assez rigolote sur l'affaire. Elle a rappelé que c'était une spécialiste du footing, une coureuse, et que quand elle faisait les berges de la Seine, elle était en apnée, compte tenu du fait que c'était devenu des latrines à ciel ouvert.
On fait un petit tour et on revient à vous, Charles. Michaël Darmon et Édouard Le Cerf, de quelques mots sur celui ou celle qui a creusé l'écart, parce qu'on rappelle qu'il y a bien sûr...
Je vais commencer comme Charles, je ne sais pas qui a creusé l'écart. En revanche, ce qui était absolument intéressant hier, c'était de constater effectivement dans la manière dont Hidalgo a quelque part contourné Dati
les
pour pouvoir aller sur Buzyn, c'est qu'il y a des deux côtés, et pour Dati et pour Hidalgo, l'intérêt de recréer un clivage droite-gauche, qui
Édouard,
sera la première base de
2022. Édouard Le Cerf.
Je vais suivre mes camarades, impossible de dire, il faudra attendre quelques sondages, et encore une fois, j'incite à toute la plus grande prudence sur les sondages. Et nous en aurons un la semaine prochaine.
Mais qu'est-ce que c'est la prudence sur les sondages, c'est-à-dire
sur les sondages par rapport à Paris.
À Paris.
Avec,
non, je croyais généralement, globalement.
Mais il faut avoir de la prudence avec les sondages, de manière générale, et je suis bien placé pour vous en parler. Mais la question va être de voir comment est-ce que ces choses-là vont s'agréger. Je suis assez d'accord aussi avec Michael. Le clivage gauche-droite, l'intérêt de recréer quelque chose pour diminuer le potentiel de nuisance entre les deux tours, et ensuite, après le second tour d'Agnès Buzyn et du score qu'elle obtiendra et du nombre d'élus qu'elle obtiendra, c'est effectivement ce qu'il faut jouer l'une pour l'autre, l'une contre l'autre.
Ouais. Agnès Buzyn qui sera justement l'invitée d'Aurélie Herbemont à 19h10, la candidate pour la mairie de Paris pour En Marche, bien sûr. On se retrouve dans un instant, les grandes voix. Vous le savez, il y avait du monde autour d'Emmanuel Macron tout à l'heure, des chercheurs, des médecins, des scientifiques pour faire le point sur la lutte contre le coronavirus.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix jusqu'à 19h ce soir autour de vous, Nathalie, Charles Villeneuve, Michaël Darmon et Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de BVA, et vos réactions bien sûr en direct au 39-21.
L'état des lieux sur le coronavirus ce jeudi soir, l'Italie compte près de 800 nouveaux cas, 41 décès de plus, 377 cas en France, 6 morts et toutes les régions désormais touchées. Emmanuel Macron s'est entretenu avec des médecins, des scientifiques, des responsables de laboratoires cet après-midi à l'Élysée, et le constat est là, le président de la République le dit, une épidémie est inexorable en France, soit le fameux stade 3 dont on parle déjà depuis quelques jours maintenant, avec lequel on flirte, ça y est, il le dit Emmanuel Macron, mais les actes sont, les actes consécutifs sont compliqués à lire, je ne sais pas ce que vous en pensez tous autour de cette table, mais à géométrie variable tout au moins, les annulations, les reports, etc. etc.
Mais ça dépend, même les annulations sont contradictoires. Parce qu'il y en a justement d'autres manifestations qui ne sont pas du tout annulées, comme tous les matchs de première division et les matchs de rugby ce week-end, alors qu'on annule le marathon. Allez comprendre.
Allez comprendre, c'est bien pour ça que je parlais de géométrie variable. Qu'est-ce qu'on se dit à ce stade, Édouard Le Cerf? La communication présidentielle, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Les annulations, la France, pour l'instant, n'a pas l'air de vouloir se barricader? Si on comprend
Mais c'est intéressant, j'ai vu des sondages de quelques confrères sur le sujet, et Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, Marie, ce que vous dites, les Français sont plutôt satisfaits de la manière dont on communique sur le sujet.
Oui, mais, mais on ne dit pas le contraire.
Ah non, mais c'est relativement étonnant, parce que trouver un sujet sur lequel les Français se disent satisfaits de l'information qui leur est délivrée, c'est rare. Or, là, on a un sujet sur lequel ils le disent. Donc, c'est intéressant. Et on ne va pas faire le pari du cynisme politique, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron doit aussi voir la manière dont sa popularité, selon un sondage récent d'un de nos confrères, remonte. Jouer la carte de l'expertise, jouer la carte de « je mets autour de moi les meilleures personnes pour avancer sur ces éléments-là », ça n'est pas du cynisme politique, c'est naturellement aussi le fait de pouvoir s'appuyer sur un climat d'opinion qui peut être favorable.
Bien sûr, c'est première remontée sérieuse quand même depuis 6 mois pour Emmanuel Macron dans les sondages.
Pardon, ce n'est pas du cynisme politique, il fait son métier. Il est au pouvoir, il doit faire en sorte de pouvoir s'y maintenir, il veut s'y maintenir. Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne gère pas le virus, il gère le consensus autour de lui. Il a inventé depuis quelques jours le nouveau domaine réservé présidentiel qui est le régalien sanitaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va quelque part, en tant que chef des armées contre les virus, il s'entoure des blouses blanches, les nouveaux uniformes, et il dit une phrase à chaque fois d'état-major qui précède ou qui annonce, on va dire plutôt, l'étape d'après qui sera gérée par ensuite l'ingénierie. Mais lui, il a compris qu'effectivement, s'il veut remonter enfin dans
la
fonction des Français,
plus 4 points dans
c'est
le dernier
tellement
sondage.
Compliqué. Et on voit bien que peut-être les premiers sondages bien commencent à donner la mesure. Il s'est emparé de la gestion de cette, en tout cas, de l'expression liée à ce virus. Et parce qu'il a compris aussi qu'en moment de crise, les Français refont confiance dans l'exécutif. Oui, c'est quand même intéressant de voir comment un gouvernement dit « on ne s'embrasse plus, tout le monde obéit hein. ».
Mais parce que c'est là toute la différence avec l'Italie. La France est dans l'anticipation de la crise épidémique. Alors que l'Italie est dans la réaction.
Elle l'a subi.
Parce qu'elle a été prise de vitesse à cause du fait qu'elle n'a pas trouvé le patient zéro dans le départ. Il n'y peut rien. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, alors là, c'est justement ce que tu écrivais, c'est-à-dire le côté régalien du pouvoir en France. Mais d'abord parce qu'il est central, mais surtout aussi parce que le maillage sanitaire, à travers les agences sanitaires régionales, est très important. Et en Italie, si vous voulez, c'est moins organisé de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle la propagation accélérée a pris de revers un peu les Italiens, parce que justement, ils n'ont pas ce fameux patient zéro identifié à temps. Ouais. Ce n'est pas de leur faute.
C'est là qu'on voit que la structure pyramidale de cette 5e République très centralisée
qui fait
toute sa mesure.
Qui fait sens, exactement.
Le système est bien organisé.
À tel point que le recours au 49.3 est passé quasiment en dessous des radars, Édouard Le Cerf, cette semaine, parce que le coronavirus a pris toute la place, parce que la remontée dans les sondages d'Emmanuel Macron, elle est vraiment virale.
En tout cas, elle s'appuie vraisemblablement sur cet élément qui vient un petit peu balayer tout le reste. D'ailleurs, regardez simplement la manière dont les médias, qui sont un bon reflet de sans doute, et qui anticipent et qui participent à la manière dont les Français voient les sujets à leur porte. Le 49.3, on en a parlé. On a notamment beaucoup glosé sur cette fameuse utilisation du 49.3 et ensuite l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes dont on s'est dit, et certains hommes politiques ou femmes politiques ont mis en avant le côté un peu singulier de la coïncidence de ces deux éléments-là. 3 jours plus tard, on est beaucoup moins sur le 49.3. Bon, alors c'est vrai parce que l'on parle aussi de la manière dont ça va continuer
bien
à débattre,
sûr,
etc.
Enfin,
et aujourd'hui, 80% du temps mental des Français est consacré à ça, parce que c'est un quotidien aujourd'hui déjà palpable et pas quelque chose pour demain ou après.
Donc, vous êtes tous d'accord pour dire qu'ils n'en font pas trop. Il n'en fait pas trop, Emmanuel Macron. Il n'en fait pas trop quand il bouleverse son agenda. Il n'en fait pas trop quand il réunit les chercheurs avec la photo qui va bien ce soir, médecin scientifique responsable de laboratoire, une trentaine comme ça autour de la table.
Il est dans son rôle.
Est-ce que vous avez déjà vu une commission d'enquête pour des gens qui en ont fait trop? Non, on fait une commission d'enquête quand on considère qu'on n'en a pas fait assez. Donc, de ce point de vue-là, il est dans son ton.
C'est ce que vous dites. Bravo. Enfin, bravo. Non, pas bravo d'ailleurs. C'est de ça n'engage que
je
vous.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos.
Merci beaucoup, les grandes voix.